pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les droits nature, ça consiste à reconnaître des entités naturelles, des fleuves, des rivières, des glaciers, des montagnes, des zones humides ou des espèces animales. Reconnaître des entités naturelles comme des sujets de droit, le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit à la régénération, de remplir ses fonctions écologiques essentielles, le droit d'agir en justice par l'intermédiaire de représentants. Et à côté de ces droits propres, on va leur reconnaître une personnalité juridique. Ce qui fait que l'entité naturelle va passer d'un statut d'objet d'appropriation à un statut de sujet de droit. Même en l'absence de loi qui reconnaît des droits à des entités naturelles, des juges vont, en partant du droit à un environnement sain, du droit à la culture, du droit à l'eau, en mobilisant des concepts tels que l'ordre public écologique, vont en arriver à reconnaître des droits à des fleuves, à des rivières, à des forêts, etc.
Et si les fleuves avaient des droits ? Pas seulement les fleuves. Si les milieux naturels et tous leurs végétaux et animaux étaient considérés comme des sujets de droit, avec reconnaissance de personnalité juridique d'entités non humaines qui pourraient être représentées et défendues dans les tribunaux. Salut les amis, c'est JBD pour Polémiques et la voix off.com et pour votre radio libre préférée, les droits de la nature, ou plutôt le droit du vivant, on en parle aujourd'hui avec Marine Izquierdo, avocate en droit de l'environnement et membre de l'association Notre Affaire à Tous. Bonjour Marine.
Bonjour.
Octobre 2025, l'expédition Bateau-Labo qui vogue vers le delta du Danube fait escale sur l'île Saint-Denis. La Fillonnerie, chaland de Loire traditionnel en bois, s'amarre à une péniche. Et c'est au cours d'une conférence Bateau-Labo qu'on rencontre Marine Izquierdo. Avant de partir sur le droit du vivant, retour sur Notre Affaire à Tous, association de juristes créée en 2015 et qui utilise le droit pour lutter contre la crise environnementale. Décembre 2018, l'affaire du siècle. L'État français est enjoint de respecter ses engagements en faveur de l'environnement et du climat, notamment ceux pris en 2015 sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Après avoir obtenu la condamnation de l'État, Notre Affaire à Tous travaille notamment contre l'inaction des pouvoirs publics et l'impunité des multinationales. Et au moment de cette conversation avec Marine Izquierdo, en cet automne 2025, l'association fête ses 10 années d'existence.
Notre Affaire à Tous a fêté ses 10 ans il y a 2 semaines, puisque c'est une association qui a été créée en 2015 dans le sillage de l'affaire Urgenda aux Pays-Bas. Et donc les fondateurs, fondatrices, s'étaient réunis pour se dire si on faisait une action similaire en France. Donc ils avaient ça comme idée, puis en fait au total il y avait 5 revendications. Donc faire un recours contre l'État pour une action climatique, c'est ce qui a été fait avec l'affaire du siècle, qui a été lancée en 2018. Reconnaître la responsabilité des multinationales. Changer la constitution pour en faire une constitution écologique, reconnaître le crime d'écocide et reconnaître les droits de la nature.
Et donc il y a un jeu de mots dans Notre Affaire à Tous, finalement c'est Notre Affaire à Tous, il y a aussi le sens juridique, judiciaire d'une affaire, puisque c'est une association dont l'axe de travail est le droit.
Oui, alors c'est une association composée de juristes principalement, donc une association qui œuvre pour la justice climatique, la justice sociale, les droits du vivant et qui utilise le droit comme outil, comme levier d'action au service du vivant.
3 grands axes de travail, le réchauffement climatique, la biodiversité, la pollution, tout ça étant intrinsèquement mêlé.
Oui, c'est ça. En général, on parle du droit de l'environnement, mais on se rend compte que le climat, c'est un peu un axe à part. Donc il y a tout ce qui est climat, biodiversité, pollution chimique, notamment les PFAS. Donc ça, c'est les grands axes sur lesquels Notre Affaire à Tous intervient. Et sinon, elle intervient via plusieurs axes, je veux dire, d'action. Un axe contentieux, donc ce sont les contentieux contre l'État, contre les multinationales, pour les mettre face à leurs responsabilités. Et puis un axe sensibilisation, éducation, avec la mise en place de boîtes à outils à diffuser dans les collèges, les écoles. Et puis un axe plaidoyer pour faire avancer, évoluer le droit, avec notamment là-dedans tout ce qui est reconnaissance de l'écocide et reconnaissance des droits de la nature.
Des combats environnementaux ou pour la protection du vivant, mais avec cette dimension sociale et donc économique. En fait, c'est pas de l'écologie qui flotte dans les limbes comme ça, hors sol. C'est de l'écologie ou en tout cas des conceptions environnementales qui sont ancrées dans ce monde-ci.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est de dire que tous les combats sont liés et qu'on ne peut pas œuvrer pour une justice climatique sans prendre en compte la justice sociale. Ce sont des combats qui sont liés, bien sûr.
Notre affaire à tous, ce sont des gens comme toi, moi, qui financent. Est-ce que l'État vous accorde des subventions pour que vous retrouviez à porter plainte contre lui ?
On n'a pas de subventions publiques de l'État ou des régions. On a tout ce qui est adhésion, mais ce n'est pas ce qui représente la plus grande part de financement. On a des dons aussi, ponctuels. Et puis on a des financements de fonds de dotation, notamment un fonds aux Pays-Bas qui finance tout ce qui est action contre les entreprises. Donc c'est comme ça qu'on s'y retrouve.
Il y a un site qui est très bien fait, hein, Notre Affaire à Tous. Il y a un bilan qui est donné pour chaque année de tout ce que vous avez entrepris. Pour en savoir plus sur Notre Affaire à Tous, il y a tout sur Internet. L'affaire du siècle, c'était quoi déjà ?
L'affaire du siècle, c'est un recours contre l'État français pour inaction climatique qui a été lancé en 2018. Donc c'est porté par Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam et la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme ou Fondation Nicolas Hulot. L'Affaire du siècle, c'est le nom du collectif qui regroupe ces quatre associations et c'est aussi le nom qu'on a donné à ce recours. Donc en 2018, on a déposé ce qu'on appelle une demande préalable au gouvernement qui n'a pas répondu positivement à notre demande. Donc après, 2 mois après, on a lancé ce recours devant le tribunal administratif de Paris qui nous a donné raison en 2021.
Parce que l'État français ne respecte pas des engagements pris ?
C'est ça. L'idée, c'était de montrer la carence fautive de l'État français dans le respect des objectifs climatiques qu'il s'était lui-même fixés. Et ça découle de normes internationales, notamment l'accord de Paris, signé en 2015, de normes européennes, notamment tout ce qui est Green Deal, et puis aussi de normes nationales, avec notamment la SNBC, la Stratégie Nationale Bas Carbone, qui est en gros la feuille de route climatique du gouvernement pour le climat, donc pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc on a démontré que tout ça n'avait pas été respecté, et que c'est pour ça qu'il y avait eu un dépassement du premier budget carbone 2015-2018.
Catastrophe climatique écologique mondiale, depuis des années, l'alerte est sonnée à chaque COP. Et depuis des années, des États, ceux qui ne sont pas climato-sceptiques, font de grandes promesses qui n'engagent que qui les écoute. En 2010, la chanson du dimanche brocardait déjà la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
3, 4, convoqué à Copenhague pour couper court au CO. Un cortège de comptables qu'on vola en hélico et de colloques en conférence. Oh, convaincu d'un combat écolo. Oh, un vieux coq coiffé comme une offense. Oh, chanté comme un con cocorico. Confortant leur concurrence, consortium et compagnie. Cossière en connivence, un contrat court et concis, et de consensus en complaisance, et de conspirations en complot, le vieux coq corrompu comme la France, co-signa d'un grand cocorico, conforme à la comédie, concoctée entre copains, les complices communis, qui est conclu au bien commun. Condescendance, de contresens en contradiction, consignant dans un coin leur conscience, les yeux qu'on nous prenne pour des cons, de leur côté coquillage, cochon d'un et cormoran, se confère du courage, le corail est encore blanc, comment faut croire au commerce équitable. Oh,
sans confetti
et sans colorant. Oh, tout en conviant le continuable. Oh, à consommer continuellement.
La chanson du dimanche en 2010 lors de la convention de Stockholm où des États ont pris de grands engagements sur les polluants organiques persistants parce qu'il n'y a pas que les polluants éternels dans la vie, vous savez les PFAS. On en revient à notre affaire à tous avec Marine Izquierdo, avocate en droit de l'environnement.
Comment croire au commerce équitable ? Sans confetti et sans colorant. En conviant le contribuable, oh, à consommer continuellement.
Tu as toujours travaillé avec Notre Affaire à Tous ?
Alors moi j'ai rejoint Notre Affaire à Tous en 2018, puisqu'en fait je venais de rentrer de 3 années à Londres où j'avais étudié puis travaillé. J'avais intégré un cabinet d'avocats anglo-saxon. Je cherchais en fait à m'investir plus dans le domaine en droit de l'environnement. Et puis, à l'été 2018, tombe le rapport du GIEC, et puis dans la foulée, la démission de Nicolas Hulot. Et là, à l'époque, en septembre, un citoyen lambda, comme ça, lance une grande marche pour le climat en réaction à la démission de Nicolas Hulot. Puis en fait, ça a pris petit à petit, on utilisait beaucoup Facebook à l'époque, et donc plusieurs grandes marches pour le climat ont été organisées comme ça dans toute la France. J'ai participé. Et puis il y a une espèce vraiment d'effervescence, et toutes les personnes qui avaient marché, c'était en septembre 2018, se sont dit bah, on n'en reste pas là, qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est quoi la suite? Et donc ce collectif a commencé à se structurer petit à petit. Bah, je me suis proposée pour être à la fois juriste bénévole au sein de ce collectif, pour aider notamment à tout ce qui est déclaration de manifestation, rédaction d'une charte au sein de ce collectif, et puis aussi pour aider à la modération, pour filtrer les messages qui arrivaient, les commentaires qu'il y avait. Et en étant modératrice, je voyais souvent le nom de Notre Affaire à Tous qui revenait. J'étais déjà concernée par tous ces enjeux, mais je connaissais des grandes associations comme Greenpeace, comme Oxfam, mais je n'avais jamais entendu parler de Notre Affaire à Tous. Et je me suis dit, tiens, mais c'est quoi cette association? Donc je suis allée voir en ligne, et là je vois ce qu'ils font, je me dis, mais ça a l'air super, une association de juristes qui utilisent le droit au service de la nature. Je les contacte, je leur écris comme ça. C'était en octobre 2018 quand je les ai contactés. C'était juste avant le lancement de l'affaire du siècle. Et donc c'était encore une toute petite asso composée d'une dizaine de bénévoles, juristes comme ça, pas du tout structurés. Bah, je les ai rencontrés. À l'époque, c'était Marie Toussaint, la présidente, qui maintenant est eurodéputée. Et donc on m'a dit, ah bah là, on a besoin de forces bénévoles sur le groupe de travail Notre Constitution écologique, puisqu'à l'époque, une révision de la Constitution était en cours. Donc je me suis occupée de ça. Et puis après, il y a eu les droits de la nature. Il n'y avait pas encore de groupe droits de la nature à proprement parler. Mais Marie Toussaint, c'était une volonté, je l'ai dit au début, de travailler sur cet axe-là. Donc avec un autre bénévole, Samy Hamel, on a créé ce groupe droits de la nature. Et puis on a commencé à se renseigner, à s'informer, nous, puisque avant d'intégrer Notre Affaire à Tous, je n'avais jamais entendu parler des droits de la nature. Et donc on s'est dit, bah, on va déjà regarder ce qui se fait dans le monde pour se former nous en interne. Et donc on a commencé comme ça à analyser tous les cas de constitution, de loi, de décision de justice. Et puis on s'est dit, bah, on va pas juste garder ça pour nous en interne dans le drive, ce serait bien d'en faire quelque chose parce que ça représentait quand même tout un travail qui s'est étalé sur 2 ans. Et donc après on en a fait un ouvrage que j'ai coordonné, qui a été publié en 2022, qui s'appelle « Les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant ». Et puis en parallèle, quelqu'un voit un article d'un projet, Parlement de Loire. Là, c'était au printemps 2019 et on se dit, ah bah tiens, si on les contactait, parce que ça résonne avec ce qu'on fait justement, ce qu'on voudrait faire sur les droits de la nature. Donc je me souviens avoir écrit au Polo et il me semble que c'est Camille de Toledo qui m'avait répondu à l'époque et qui m'a dit, ah oui, j'ai entendu parler de vous avec Valérie Cabanès, qui à l'époque était présidente d'honneur de Notre Affaire à Tous, on aimerait bien vous auditionner. Et donc c'est comme ça que le lien s'est fait, qu'on a assisté ensuite à toutes les auditions du Parlement de Loire. Et après, Camille nous a demandé, le groupe de bénévoles qui travaillons là-dessus, si on pouvait l'aider dans le cadre du livre « Le fleuve » qu'il voulait écrire. Il avait besoin en fait qu'on fasse toutes les notes de bas de page juridiques, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne auditionnait faisait référence au droit de la nature et que ça nous faisait penser à un procès, un article, un livre, quelque chose, bah, il y avait ces notes de bas de page, ce que Camille de Toledo appelle l'appareil critique du livre. Et donc là a été publié Le fleuve qui voulait écrire. Et après, dans la foulée, nous, en 2022, on a publié donc le livre de Notre affaire à tous. Et Camille de Toledo dit souvent que c'est le petit frère du fleuve qui voulait écrire. Parce que pendant qu'on faisait les notes de bas de page pour le livre de Camille de Toledo, nous, on préparait le livre, donc ça alimentait les notes de bas de page. Et ensuite, une fois que Le fleuve qui voulait écrire a été publié, on s'est inspiré des auditions qui étaient retranscrites dedans pour rédiger le livre de Notre affaire à tous. Donc ça s'est nourri mutuellement.
Qu'est-ce qu'on appelle exactement les droits de la nature ? Est-ce que même le mot nature n'est pas un peu problématique ? Est-ce qu'on pourrait pas plutôt parler de vivant ?
Que ce soit droit de la nature ou droit du vivant, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on entend par là ? En fait, les droits de la nature, ça consiste à reconnaître des entités naturelles, que ce soit des fleuves, des rivières, des glaciers, des montagnes, des zones humides ou des espèces animales. Donc, reconnaître des entités naturelles comme des sujets de droit. Et avec des droits propres, des droits fondamentaux, par exemple le droit d'exister, le droit de s'épanouir, le droit à la régénération, le droit de remplir ses fonctions écologiques essentielles, le droit d'agir en justice par l'intermédiaire de représentants. Et à côté de ces droits propres, on va leur reconnaître une personnalité juridique. Ce qui fait que l'entité naturelle va passer d'un statut d'objet d'appropriation à un statut de sujet de droit. Dans notre droit, il y a deux catégories principales, les choses et les personnes. Ou les objets et les sujets de droit.
C'est un héritage romain, ça, non ?
Voilà. Et donc, l'idée, c'est que si on reconnaît des arbres ou une rivière sujet de droit, c'est que ce ne soit plus des objets au sens juridique, mais donc des personnes dotées de droits propres. Alors maintenant, il y a quand même un débat entre juristes qui existe, que je dois mentionner. C'est certains se disent, pourquoi pas ne reconnaître des droits, mais sans personnalité juridique. C'est-à-dire que l'entité naturelle serait dotée de droits, mais ça ne serait pas pour autant une personne au sens juridique, ce serait un bien commun environnemental. Et ça, c'est notamment une approche portée par le juriste professeur de droit Alexandre Zabalza, qui a fait ça pour la vallée du Ciron à côté de Bordeaux. Donc ils ont reconnu des droits à la vallée du Ciron par des citoyens, des associations, mais ça reste un bien commun environnemental. Donc voilà ce qu'on entend par droit de la nature. Après, la nature, c'est très vaste. Qu'est-ce qu'on met dedans ? Si on suit Philippe Descola, la nature, ça n'existe pas. Qu'on parle de nature, de vivant ou d'environnement, par définition, c'est ce qui est extérieur à nous. Or, nous faisons partie de la nature, nous sommes la nature. Mais bon, nous, dans nos conceptions occidentales, faut bien avoir une expression qui parle, donc les droits de la nature. Et si on voulait être précis, comme dirait Marie-Angèle Hermite, il faut plutôt parler de droits des entités naturelles. Parce que la nature, encore une fois, c'est très vaste. En Équateur, donc, ce sont les droits de la nature en général qui ont été reconnus dans la Constitution. Donc on voit que maintenant, ce sont les juges qui sont chargés de préciser la portée de ces droits de la nature. Qu'est-ce qu'on met là-dedans ? Est-ce que ça concerne toute la nature ou est-ce que c'est certains écosystèmes ? Est-ce que les espèces animales aussi sont incluses dedans ? Et donc ça, on a des arrêts de la Cour constitutionnelle équatorienne qui viennent préciser l'application et la portée de ces droits de la nature.
Selon les civilisations, les coins du monde, on n'a pas le même rapport avec le milieu naturel. Je reviens de ce que j'ai compris au Whanganui en Nouvelle-Zélande. Les gens, les humains qui vivent là-bas, la rivière fait partie de leur famille, fait partie d'eux. Ils vivent en symbiose avec la rivière, ils s'en nourrissent. Moi, quand je pense à mon rapport avec la Loire, si ce n'est que j'en suis constitué environ à 70% grâce à l'eau qui sort de mon robinet, grâce à la station d'épuration, c'est jusqu'à peu, c'était à peu près le seul rapport que j'avais. D'ailleurs, je crois que c'est Bruno Latour qui avait posé la question au Parlement de Loire. Y a-t-il un peuple de Loire, comme on parle de peuple Whanganui ? Donc y a-t-il un peuple de Loire ?
Alors, ça a été la critique de certains de dire les droits de la nature... Déjà, la philosophie des droits de la nature nous vient des cosmovisions ancestrales andines des peuples autochtones. Et c'est vrai que eux là-bas, ils vivent déjà en symbiose avec la nature. Ils n'ont pas besoin de reconnaître les droits de la nature, puisque ça fait partie de leur philosophie de vie. Sauf que nous, on n'a pas cette philosophie de vie, et donc on a besoin de le retranscrire juridiquement quelque part, et donc on en vient au droit de la nature. Alors après, effectivement, il y a eu parfois des critiques de certains qui disaient « mais ça ne fait pas sens chez nous, puisqu'on n'a pas de peuple autochtone en France, en Europe, on n'a pas de peuple autochtone qui vivent le long de Loire, le long de la Seine, etc. » Sauf que on a quand même eu un exemple récemment en Espagne, pays européen, qui a la même tradition juridique que nous en France, qui a adopté une loi en 2022 qui reconnaît la lagune Marménor comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique. Donc on voit bien que ces critiques ne tiennent pas, que c'est possible de le faire. L'Espagne a ouvert la voie en Europe.
Je relevais là tout à l'heure que l'héritage humain et chose, on en héritait des Romains. Je crois que cette conception du droit aussi implique que le propriétaire de la chose peut en faire ce qu'il veut, donc éventuellement la détruire aussi.
Bah oui, en fait, les droits de la nature, c'est aussi l'idée de dire que c'est toutes ces choses, toutes ces entités naturelles, ces écosystèmes qu'on considère comme des choses ne soient plus soumises aux droits de propriété. L'idée avec les droits de la nature, c'est aussi de faire en sorte que ces écosystèmes qui vont passer du statut de chose à celui de personne ne soient plus soumises aux droits de propriété des humains. Parce qu'aujourd'hui, on a une conception assez utilitariste de la nature qu'on peut exploiter librement pour nos propres besoins. Et donc là, si on les fait passer à un statut de personne, bah, ça changera la donne. On ne pourra plus les exploiter comme ça, comme on le fait actuellement.
En se penchant sur le juridique et en réfléchissant au droit, bah, on est obligé de faire de la philo, en fait, hein, et de changer aussi par ce prisme, par ces outils juridiques, notre rapport au vivant, au reste du vivant et aux autres. Donc le droit, c'est philosophique aussi.
Bah, effectivement, quand on parle de droit à la nature, il n'y a pas qu'un intérêt sur le plan juridique, mais il y a aussi des intérêts sur le plan philosophique, sur le plan éthique, même sur le plan démocratique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de penser global et pas seulement juridique. Donc l'intérêt sur le plan juridique, ça va être de mettre en balance des intérêts opposés, les intérêts de l'entité naturelle et par exemple le droit de propriété ou la liberté d'entreprendre. On a des exemples intéressants comme ça qui nous viennent d'Équateur, de la Cour constitutionnelle équatorienne, qui par exemple a fait prévaloir les droits de la nature sur le droit de propriété d'un exploitant d'une ferme de crevettes qui était installée dans une mangrove. On a aussi des exemples où, par exemple, la réserve naturelle de Los Cedros, où il y avait deux concessions minières qui avaient été octroyées, qui recouvraient les deux tiers de la réserve naturelle de Los Cedros. Et bien pareil, en mobilisant l'argumentaire des droits de la nature, en plus du droit de l'environnement, et bien le juge constitutionnel a annulé ces concessions minières au nom des droits de la forêt de Los Cedros. Et ça concerne des entités naturelles, mais ça peut aussi concerner des cycles naturels, comme le cycle du carbone, comme les vagues. Il y a une municipalité au Brésil qui a reconnu les vagues comme sujet de droit. Ouais. Donc ça, c'est l'intérêt sur le plan juridique. Maintenant, sur le plan philosophique, éthique, bah je pense qu'on l'a un peu abordé, mais ça va être de changer notre rapport au vivant, le regard qu'on porte sur ces écosystèmes, ne plus les contempler comme des objets d'appropriation, mais comme des sujets de droit, et donc élargir la considération morale à des non-humains. Sur le plan démocratique, ça va être de mettre en place ce que Loïc Blondiot appelle la démocratie du vivant, donc comment on repense nos instances de gouvernance pour y intégrer les voies de la nature. Et puis, sur le plan culturel, en fait, il y a une attente de la société, on voit que les droits de la nature prennent de plus en plus. Et donc cette attente fait qu'on peut transformer le droit. Mais aussi, le fait de transformer notre droit, ça influe sur les comportements des humains, des comportements en société. C'est dans les deux sens.
Et nous amène peut-être, avec cette pensée absurde, qu'on serait au sommet d'une pyramide et que tout ce qui vit en dessous de nous nous est assujetti et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Prendre conscience qu'on fait partie d'un grand tout, hein, sans vouloir verser dans l'ésotérisme, bon marché.
C'est ça, pour compléter sur l'aspect éthique, c'est passer de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme. Donc, enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, se décentrer. Arrêter de croire qu'on est au-dessus de la pyramide du vivant, que l'homme est le centre du monde, et qu'en fait, on fait partie d'une communauté biotique et que tout ça est interdépendant.
En attendant des juristes qui parlent pour les droits du vivant non humain, cela fait déjà des millénaires que l'eau, par exemple, a des artistes qui chantent pour elle.
Des imbéciles, un des débiles, par cent, par mille. lâche pas, nous si on ne me lâche pas,
ne me lâche pas.
Il dit je déjoue, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un continent de sur moi. Il y a l'Afrique,
et l'Afrique et l'Amérique, puis l'Antarctique et l'Océanie, l'Europe, l'Asie,
l'Océanie et l'Europe, l'Asie.
Mais ce septième continent, c'est qui?
C'est des plastiques flottants toxiques, c'est astronomique.
L'océan qui gronde, extrait du disque L'eau qui mord, avant de retrouver Marine Iscardo, avocate en droit de l'environnement et membre de Notre Affaire à tous, association de juristes qui travaille aussi sur le droit du vivant. Alors vous aurez peut-être entendu parler de la rivière Whanganui, à laquelle le Parlement de Nouvelle-Zélande a reconnu sa personnalité juridique. Affaire qui a fait tache d'huile un peu partout dans le monde, comme par exemple en région centre avec le Parlement de Loire, pour que la Loire, ou que Loire, ait les mêmes droits qu'une personne. Notre affaire à tous, c'est donc défendre le droit et aussi proposer des droits.
Oui, effectivement, on défend avec Notre Affaire à tous le droit de l'environnement, son application et son renforcement. Et à côté de ça, on propose aussi un nouveau droit, avec notamment le crime d'écocide et les droits de la nature. Et donc on en vient au droit de la nature, qui effectivement, pour répondre à ta question, existe déjà dans certains pays, pas encore en France, mais c'est pour ça qu'on fait tout ce plaidoyer pour les voir reconnaître. Et tu citais l'exemple de Whanganui. Alors pour les Maoris, Whanganui est féminin, donc on dit la rivière et non pas le fleuve. Donc la rivière Whanganui, qui a été reconnue comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique par une loi votée par le Parlement en 2017. On a aussi tout un mouvement qui existe aux États-Unis avec des municipalités qui vont amender leur charte municipale pour y reconnaître des droits aux communautés naturelles, donc aux écosystèmes. On a l'Équateur qui a modifié sa constitution en 2008 pour y intégrer les droits de la terre-mère, de la Pachamama. Puis voilà, aujourd'hui on a une vingtaine de pays qui ont fait ça, aussi via des décisions de justice. C'est-à-dire que même en l'absence de loi qui reconnaît des droits à des entités naturelles, eh bien des juges vont, dans leur argumentaire, en partant du droit à un environnement sain, du droit à la culture, du droit à l'eau, en mobilisant des concepts tels que l'ordre public écologique, eh bien vont en arriver à reconnaître des droits à des fleuves, à des rivières, à des forêts, comme c'est le cas en Colombie, comme ça a été le cas au Pakistan pour l'éléphant cavane, etc.
En ce qui concerne le Parlement de Loire, l'un des objectifs serait de doter le fleuve Loire, et donc tout ce qui y vit, d'une personnalité juridique.
Ouais, c'est ça. Donc Parlement de Loire, pour moi, c'est le projet pionnier en France qui a été initié en 2019 par le POLO, le pôle art et urbanisme de Saint-Pierre-des-Corps à côté de Tours, et l'écrivain Kem de Toledo. Et donc ça a consisté en des auditions. Donc ils ont auditionné des juristes, des philosophes, des naturalistes, des écologues, des anthropologues pour imaginer, on est dans une fiction, imaginer reconnaître le fleuve Loire comme sujet de droit doté d'une personnalité juridique. Et donc à l'issue de ces auditions qui se sont étalées sur 2 ans puisqu'entre temps il y a le Covid, ça a été mis en scène, donc retranscrit dans le livre « Le fleuve qui voulait écrire ». Et puis ensuite, ça s'est structuré en un collectif qui s'appelle Vers un Parlement de Loire et qui maintenant ambitionne toujours de doter Loire d'une personnalité juridique.
Ça ouvre tout un tas de portes et il y en a notamment une, je voudrais passer par le droit du travail. Puisqu'on veut se la jouer capitaliste et ethnocentré, ce qu'on appelle la nature ou le vivant travaille pour l'humain. Tout travail mérite salaire. Est-ce que ça pourrait ouvrir une porte aussi du droit du travail, notamment pour Loire, qui après tout nous permet de survivre, puisque on peut pas vivre plus de 3 jours sans boire, sur côté de tous les autres usages qu'on a de Loire pour l'industrie, pour nos maisons, pour faire la vaisselle. Et puis la préservation des milieux, sans lesquels on ne peut pas vivre et dont on est un élément, même si on se pense, nous les sapiens, plus intelligents que le reste du vivant. Et donc, ma foi, pourquoi pas rétribuer et salarier Loire, ce qui permettrait peut-être de financer des avocats, se racheter des espaces naturels, se refaire des beautés, voilà. Est-ce que ce serait incongru, finalement, de finir aussi par imaginer que tout travail méritant salaire, Loire pourrait être rétribué? C'est chelou, hein.
Mais pas tant que ça, puisque c'est précisément l'idée, le projet porté par Camille de Toledo, avec son projet Vers une internationale des rivières et autres éléments naturels. Un projet coporté par l'Institut d'études avancées de Nantes et le lieu unique, coordonné par Camille de Toledo, donc, qui a une résidence à l'IEA de Nantes. Et donc, ce qu'il imagine, c'est de rétribuer les entités naturelles pour les services qu'elles fournissent aux humains, à nos sociétés. Tu citais l'exemple de Loire, pour les pêcheurs, qui aident à refroidir les centrales nucléaires, pour l'hydroélectricité, etc. Donc on pourrait imaginer, dès lors que ces fleuves deviennent des personnes au sens juridique, ensuite qu'elles aient un compte en banque, qu'elles puissent ensuite recevoir de l'argent pour tous ces services qu'elles vont rendre aux humains. Et cet argent servira notamment à payer leurs porte-parole, qui auront été désignés pour les représenter, serviront à payer leurs avocats pour intenter des contentieux contre les entreprises qui pollueraient. Elles pourront aussi décider d'affecter une part de cet argent peut-être à une autre entité naturelle qui, elle, aura moins d'argent. Et donc, avec tout ça, ça mettra en place ce que Camille appelle une économie politique terrestre, au sein de laquelle les travailleurs non humains se battront et feront valoir leurs droits aux côtés des travailleurs humains. Puisque l'international des rivières, ça évoque la dimension internationale, géographique, donc relier toutes ces fleuves et rivières du monde, mais aussi la dimension internationale, lutte ouvrière. Et donc c'est ça ce projet qui est porté par Camille de Toledo. Camille prend la métaphore que je trouve très intéressante des Transformers. Tu sais, ces jouets, comme quand il explique à ses enfants. Et il dit, en fait, on a connu une première génération de Transformers qui est l'État. L'État, c'est une personne morale. Et donc l'État a pu accomplir des choses très bien, comme la sécurité sociale, comme les services publics, l'accès à l'éducation, l'accès au transport public, etc. Mais l'État aussi est capable des pires atrocités. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, et puis aussi beaucoup d'inégalités, d'inéquités sociales, d'inégalités climatiques, voilà. Ça, c'est ce qu'il appelle les métapersonnes, la première génération de Transformers de métapersonnes. Ensuite, on a connu une deuxième génération, depuis la fin du 19e siècle, les entreprises. Entreprises au sens large, donc les sociétés, les associations, les syndicats. Ça, ce sont les deuxièmes métapersonnes. Donc les sociétés, certaines sont très vertueuses, mais certaines aussi pillent nos ressources naturelles, se rendent complices avec des états de crimes de guerre, vont déloger des peuples autochtones pour piller les réserves naturelles. Et à côté de ça, de ces premières et deuxièmes générations, eh bien, on aurait une troisième génération de métapersonnes qui seraient les entités naturelles juridiques, reconnues comme personnes au sens juridique, qui, elles, ensuite, pourraient venir contrebalancer ces pouvoirs de l'État, des entreprises, parce qu'elles, justement, elles auront été reconnues comme sujets de droit. Et donc c'est l'idée avec ce projet Vers International des Rivières. Et en fait, quand tu comprends que rétribuer justement le travail de la nature, ça servirait non pas à justifier des pollutions en disant je pollue donc je paye donc je peux continuer à polluer, mais quand tu mets ça de côté et que tu comprends en fait toute la logique derrière, et effectivement tu mets en place une nouvelle économie politique terrestre.
Notons-le au passage, le vivant n'a pas de prix, que le travail du vivant est inestimable.
Et c'est pour ça en fait que ce type de projet, quand on envisage les droits de la nature, on ne peut plus raisonner en silos, les juristes d'un côté, les économistes de l'autre, les philosophes. Et c'est pour ça que ce sont des projets pluri, voire transdisciplinaires. Et que là, Camille justement fait appel à des économistes pour avancer avec ce projet.
On pourrait se dire que voilà, on est là dans des utopies tout à fait intéressantes et charmantes, etc. Mais à part que sur le terrain, ça se concrétise, puisque je pense notamment à lui, l'un de nos 38 députés écologistes et sociaux, Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire, est allé dire des choses à l'Assemblée nationale autour du Parlement de Loire il y a peu.
Oui, alors Charles Fournier est très impliqué déjà depuis le début sur le projet Parlement de Loire. Et c'est lui, avec la complicité de Camille de Toledo et la mienne pour notre affaire à tous, qui a organisé à l'Assemblée nationale le premier colloque sur les droits de la nature, le 30 avril 2025. Alors, faut savoir que ce colloque, il devait déjà avoir lieu en principe un an avant, en juin 2024. Mais comme il y a eu la dissolution entre-temps, du coup, ça avait été repoussé. Donc, il a finalement eu lieu le 30 avril dernier. Et c'est à l'occasion de ce colloque donc qu'on a entendu différentes voix françaises et européennes qui œuvrent pour la reconnaissance des droits de la nature. Et c'est à cette occasion que 3 propositions de loi citoyennes ont été remises à Charles Fournier par les citoyens, le Conseil des témoins qui travaillent sur le projet vers une internationale des rivières avec Amy de Toledo. Donc un projet de loi cadre pour reconnaître les droits de la nature, un projet de loi qui reconnaîtrait le fleuve Loire comme sujet de droit et un troisième concernant l'estuaire du fleuve Loire. Pour le moment, ces projets de loi n'ont pas été présentés à l'hémicycle par Charles Fournier. Elles doivent être retravaillées. Je ne sais plus si c'est la commission des lois ou la commission développement durable qui a déjà fait ses premiers retours sur 2 projets de loi. Et donc nous, on va aider donc nous les juristes de notre affaire à tous et puis aussi les juristes du think tank, le cercle des juristes sur les droits de la nature, vont aider à retravailler ces lois pour qu'ensuite Charles puisse les porter dans l'hémicycle. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, étant donné le contexte politique. Mais en tout cas, on a bon espoir que ça progresse, là, que ça reprenne courant 2026.
Depuis que cette affaire de Parlement de Loire a été lancée donc en 2019, est-ce que vous, Notre Affaire à Tous ou le Polo, avez été contacté par d'autres gens, d'autres parties du monde qui disent « Tiens, vous faites ça ?» Enfin, comme vous, vous avez fait pour la Nouvelle-Zélande, par exemple, sûrement. Tiens, bah nous aussi, on aimerait bien que tel milieu, tel vivant soit protégé, reconnu, etc. Est-ce qu'on vous sollicite ? Est-ce qu'on vous consulte ?
Oui, justement. Donc, une fois que Parlement de Loire a été lancé, ça a inspiré beaucoup de collectifs, de personnes en France. Et nous, à la suite de ça, on a été contactés, c'était en 2020, me semble-t-il, on a été contactés par le collectif Tavignan ou Vivoux en Corse, qui avait entendu parler du Parlement de Loire, des droits de la nature, et qui voulait faire quelque chose pour sauver le fleuve Tavignano, le deuxième fleuve de Corse, qui est menacé par un projet de centre d'enfouissement de déchets ménagers assimilés et de terres amiantifères dans un méandre du fleuve, sur un terrain qui est géologiquement instable. Et donc le collectif Tavignano Vivus s'est battu pendant 5 ans en justice, devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel, et ensuite devant le Conseil d'État, et l'autorisation d'exploiter a été confirmée en fait. Et donc ils ont perdu la lutte sur le terrain judiciaire, et ils se sont dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les droits de la nature? Et donc ils ont contacté Notre Affaire à Tous, et moi à l'époque. Et c'est là où je leur ai proposé de rédiger une déclaration des droits du fleuve Tavignano. Je leur ai dit, écoutez, ça va pas faire annuler la décision du Conseil d'État, c'est pas le but, mais au moins ça permettra d'en faire un outil de mobilisation à la fois citoyenne et politique pour essayer de faire reconnaître des droits à ce fleuve, à l'échelle locale bien sûr. Et donc on les a aidés à rédiger une déclaration, à la proclamer, à la porter sur la durée. Et donc cette déclaration, elle a été proclamée en 2021. Et depuis, il y a environ 5000 personnes qui ont signé cette déclaration, notamment des élus locaux dès le départ. C'était le but aussi que des élus locaux soient mobilisés et soutiennent cette déclaration dès sa proclamation. Et depuis aussi, on a une 30aine de communes traversées par Tavignano qui ont adopté des motions de soutien à cette déclaration, dont la ville de Bastia, et aussi, et pas des moindres, l'Assemblée de Corse, qui elle-même a adopté une motion de soutien à la déclaration donc des droits du fleuve Tavignano. Tout ça, tu me diras, c'est bien beau, mais quelle suite ? Parce que ça reste une déclaration de droit citoyenne, portée par des citoyens. Donc ça veut dire que, d'un point de vue juridique, ça n'est pas contraignant. On ne peut pas forcer les gens à la respecter. Et même si les villes ont adopté des motions de soutien, bah pareil, ça ne veut pas dire qu'elle est applicable, qu'elle produit des effets juridiques. C'est pour ça que maintenant, on est en contact avec l'Assemblée de Corse pour voir comment être pragmatique en attendant qu'une loi soit votée qui reconnaisse des droits à la nature et au fleuve Tavignano, et notamment en annexant, en intégrant cette déclaration dans des documents d'urbanisme et de planification comme le PADUC, le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Donc là, pour le moment, il y a des discussions qui sont en cours avec l'Assemblée de Corse pour aller vers ça, et aussi un maire d'une commune qui a créé un PLU, un plan local d'urbanisme, parce qu'il n'en avait pas encore. Et donc moi, là, je suis en contact avec son urbaniste pour annexer la déclaration à ce PLU nouvellement créé, mentionné par-ci par-là les droits du Tavignano. Donc là, on va voir ce que ça donne. Donc ça, c'était pour Ta Vigne à nous, mais depuis, on accompagne une dizaine de collectifs aussi. On a accompagné plusieurs collectifs à proclamer des déclarations de droits, d'autres fleuves, d'autres rivières, la Tête dans les Pyrénées-Orientales, le site des Salines en Martinique, la Durance en Provence, le fleuve côtier l'Arc dans les Bouches-du-Rhône. On est en lien aussi avec un collectif en Belgique pour la rivière Sambre, qui est transfrontalière entre la Suisse et la Belgique. On a aussi accompagné le collectif Rassembler l'Aisse, qui a proclamé la déclaration du fleuve l'Aisse à côté de Montpellier. Et là, actuellement, on est en lien avec un collectif d'associations pour faire la même chose sur le fleuve Adour, dans les Pyrénées. Donc ça, ce sont des projets qui accompagnent notre affaire à tous. Mais après, il y en a évidemment bien d'autres qui bénéficient pas forcément d'un écho médiatique, je veux dire, mais les initiatives, là, fleurissent en France et même en Europe.
Parler du concept de espèce parapluie, là par exemple l'outarde canne-petière, qui en fait protège tout le milieu où elle vit, donc tout son biotope, etc. Protéger ou doter un fleuve ou une rivière de son entité juridique, ça veut dire tout ce qui y vit aussi, animal, végétal, humain. C'est pas juste l'eau qui coule qui est protégée, c'est ce qu'il y a tout autour et qui y vit.
Mais c'est une très bonne question. Quand on reconnaît un fleuve comme sujet de droit, se pose la question de l'échelle. Comment on le délimite ? Et est-ce que c'est juste l'eau ou est-ce que c'est l'écosystème avec tout ce qui vit dedans ?
Est-ce qu'on inclut aussi les sources, les affluents ?
Alors, il y a plusieurs conceptions possibles. Soit on prend la dimension bassin versant, donc de la source jusqu'à la confluence ou l'embouchure, avec tous les affluents. C'est une première possibilité, mais quand même, un bassin versant, c'est immense. Selon les fleuves dont on parle. Si par exemple on prend l'exemple de Loire, ça représente 1/5 du territoire. Si on prend l'exemple du fleuve Rhône, pareil, c'est immense, un bassin versant. Et dans ce bassin versant, il y a encore plein d'autres fleuves et de rivières qui peut-être, eux et elles aussi, auraient le droit d'avoir leur propre personnalité juridique. Parce que là, si on dit que Loire, c'est une personne au sens juridique, en prenant la dimension bassin versant, ça veut dire que tous les fleuves n'auront pas leur propre personnalité juridique.
Ça veut dire que si Loire est reconnue, c'est-à-dire que Vienne, Cher et Cis sont impliqués dans la reconnaissance.
Ça veut dire que ce serait une seule et même personne avec Loire. Or, c'est pas possible. Et si, par exemple, je prends l'exemple de l'Appel du Rhône. Donc, c'est une initiative franco-suisse pour reconnaître le fleuve Rhône comme sujet de droit, pareil. Mais quand on regarde le bassin versant du fleuve Rhône, dedans il y a d'autres initiatives, notamment il y a la Durance qui est comprise dans le bassin versant du fleuve Rhône, et Durance, je l'ai mentionné, il y a la déclaration des droits de Durance qui a été proclamée. L'association SOS Durance Vivante a organisé des journées pour justement imaginer la création d'une assemblée des porte-paroles de Durance maintenant que la déclaration a été proclamée. Et on peut pas dire désolé Durance, maintenant c'est comme Rhône parce qu'il y a déjà ça fait partie du bassin versant de Rhône, donc c'est rattaché à Rhône. Non, en fait, chaque fleuve, chaque rivière mérite sa propre personnalité juridique. Après, il faut bien sûr qu'il y ait une cohérence entre toutes ces initiatives, qu'elles communiquent. Selon moi, partir sur la dimension bassin versant maintenant n'est peut-être pas la meilleure idée, d'autant plus que ça fait intervenir une multitude d'acteurs sur un bassin versant et c'est pas possible en fait de concerter autant de monde.
Donc ça voudrait dire qu'il faudrait aussi travailler sur la reconnaissance juridique, par exemple des oiseaux, des castors, des loutres, etc. Ou est-ce qu'elles sont incluses dans le cours d'eau ?
On prendrait l'écosystème Loire, donc le fleuve, ce qu'il y a dans le cours d'eau, la ripisylve. Mais après, on pourrait aussi imaginer reconnaître l'espèce castor comme sujet de droit, reconnaître l'espèce oiseau, l'espèce loup. Enfin, tout est possible avec les droits de la nature. Mais après, ensuite, il faut voir comment tout ça s'intègre.
On va faire une nouvelle pause dans cette conversation. On a tout à l'heure entendu des humains qui prêtaient leur voix à l'océan. Voici d'autres voix humaines qui chantent pour l'eau.
Suis-je pas malheureuse d'avoir été trahie ? Me voilà nue, honteuse d'avoir été tarie. Je suis née à la terre, au chemin du vivant, parcourant l'univers au long défi du temps. J'ai vu s'ouvrir la vie en mon sein étonné, et chaque jour je prie qu'elle soit
Plainte de l'eau, autre extrait du disque L'eau qui mord, avant de reprendre notre échange avec l'avocate Marine Izquierdo. Devant l'inaction, voire la complicité des politiques avec les multinationales tueuses de vie, des vagues d'écologie, de lutte et de terrain ont émergé, avec notamment des zones à défendre. Et ces luttes environnementales se jouent aussi sur les terrains scientifiques et juridiques. Celles et ceux stupidement qualifiés d'éco-terroristes par le pouvoir sont des gens généralement non violents qui amènent à faire respecter le droit et les lois. On l'a vu par exemple à Sainte-Soline avec le rappel d'une loi de protection de l'outarde de Canepetière ou sur l'autoroute A69 quand des écureuils ont filmé des mésanges qui nichaient. Ces luttes se tranchent au tribunal. Elles ont donc besoin de juristes et d'avocats.
Toutes les luttes sont nécessaires. Notre affaire à tous et moi après, en tant qu'avocate, on fait le choix d'utiliser la voie légale, donc le droit, le recours aux actions en justice. Mais c'est complémentaire aussi des actions de désobéissance civile non violente. Tu citais l'exemple de la 69. Si les travaux ont été retardés, c'est pas uniquement parce que y a des espèces protégées et qu'on a découvert des mésanges sur la ZAD de la Crémarbre. C'est aussi parce que on a des personnes qui ont grimpé dans les arbres, qui se sont attachées aux engins de chantier et qui ont permis de retarder les travaux. Tout ça est complémentaire. Et bien souvent, ces personnes-là, quand elles en viennent à faire des actions de désobéissance civile non violente, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles n'ont pas été écoutées, Sur la 69, quand même, il y a des représentants du GNSA, du Groupe National de Surveillance des Arbres et du collectif La Voie Libre, qui avaient rencontré des membres du gouvernement, le ministre des Transports, qui avaient demandé un moratoire sur les travaux le temps que le tribunal administratif se prononce sur l'affaire. Et en fait, ils n'ont pas été écoutés. À chaque fois, ça n'aboutissait à rien. Et c'est pour ça ensuite qu'on a eu les grèves de la faim, les grèves de la soif, les actions des obéissances civiles, que tout a commencé en fait.
Est-ce que ça fait partie des missions que vous vous êtes fixées à notre affaire à tous, de aussi défendre des militants, militantes ?
On ne les défend pas en tant qu'association, on peut apporter notre soutien, notamment en termes de communication. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas la voie qu'on a choisie. Nous, c'est vraiment le recours au droit, au contentieux, puisque avec les actions justice, on peut renforcer le droit ou alors le faire évoluer à l'occasion d'une nouvelle jurisprudence, d'une nouvelle décision de justice. Et c'est ça l'intérêt, parce que ces décisions de justice, ça contribue à l'élaboration du droit positif, du droit qui est en vigueur donc, dans un pays. Et ce droit positif, bah, il évolue en même temps que la société évolue. Il répond aux attentes sociétales.
Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce cercle des juristes concernant les droits de la nature ?
Le cercle des juristes sur les droits de la nature, oui, c'est un think tank que j'ai initié avec d'autres universitaires, puisqu'on est parti d'un constat, c'était de dire que tous les juristes au sens large qui travaillent et s'intéressent aux droits de la nature travaillent plutôt de manière isolée, c'est-à-dire les juristes d'ONG d'un côté, les chercheurs de leur côté, les universitaires aussi de leur côté, les praticiens comme les avocats, les notaires. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir un espace de réflexion collective dédié, de mettre tout ce monde-là à une même table pour réfléchir ensemble aux modalités concrètes d'application des droits à la nature. Et c'est comme ça qu'avec Alexandre Zabalza, donc, qui est professeur de droit à Bordeaux, on a contacté toutes les personnes qu'on connaît, qu'on a rencontrées au fil des années, des colloques, des conférences, des tables rondes, et qu'on leur a proposé d'intégrer un cercle de réflexion, donc un think tank. Et donc en 24 heures, bah, toutes les personnes qu'on avait contactées par mail nous ont répondu positivement. Et on a fait cette annonce à l'Assemblée nationale lors du colloque organisé par Charles Fournier. Et donc là, actuellement, on a une trentaine praticiens, c'est-à-dire avocats, un notaire, juristes d'ONG, beaucoup d'universitaires et des chercheurs, notamment chercheurs au CNRS. Et on fait des ateliers de réflexion à peu près tous les 3 mois. Là, le premier qu'on a fait, c'était pour réfléchir à la question de savoir si, quand on reconnaît une personnalité juridique à des entités naturelles, on leur reconnaît des droits, mais aussi des obligations. Puisque la définition de personnalité juridique, c'est l'aptitude à être titulaire de droits, mais aussi de devoirs ou d'obligations. Donc on a réfléchi à tout ça, et voilà.
Je me sens un peu choqué parce que je dis, mais bon, si je pense à Loire, par exemple, ses obligations, ça fait des millénaires qu'elle est remplie déjà.
C'est-à-dire ?
Bah, elle fait déjà son travail, elle le faisait déjà avant même qu'on soit là. Loire répond à ses obligations depuis toujours, non ?
C'est pas tant ses obligations de voir, mais par exemple, si à Loire déborde, qu'elle cause des inondations, qu'il y a des morts, qu'il y a des dommages aux biens, est-ce qu'on va aller rechercher sa responsabilité ? Parce qu'elle est débordée, tu vois, c'est plus dans cette optique-là.
Comment Loire n'a pas su s'adapter aux gens qui vont vivre et construire des pavillons en zone inondable, alors que Sapiens, depuis toujours avec Loire, vit avec ses crues, voire même parfois elle les attend, parce qu'elle apporte des alluvions. Enfin, quand tu te balades en Touraine, tu vois bien que les chemins sont creux pour faire passer des barques, que s'il y a des anneaux derrière les maisons, c'est pour accrocher les dites barques, que s'il y a 3 petites marches et des garde-manger un peu en hauteur, c'est parce que les gens ont appris à vivre avec Loire. On
non,
peut pas accuser le Loire de pas avoir su s'adapter au monde moderne.
Bah, c'est pour ça que certains disent non, ça fait pas sens de reconnaître des devoirs ou des obligations aux écosystèmes, parce que le but des droits de la nature, c'est avant tout de mieux les protéger, donc leur reconnaître des droits qui pourront faire valoir en justice. D'autres vont dire oui, mais la définition de personnalité juridique, bah, c'est les droits et les obligations. Donc si on enlève les obligations, c'est pas une personnalité juridique. Ou d'autres vont encore dire, bah, entre les deux, on peut reconnaître certaines obligations. Je reprends l'exemple du compte en banque. Si Loire a un compte en banque, elle a un numéro d'identification fiscale, comme c'est le cas pour la lagune Marménor en Espagne, bah, peut-être que ses obligations, ce sera de payer des frais bancaires ou des impôts si elle en a, ou de payer ses porte-paroles, mais pas plus. Et qu'effectivement, on ne pourra pas aller chercher sa responsabilité en cas de débordement, alors que tout ça, c'est dû aux phénomènes de dérèglement climatique qui sont d'origine anthropique. Et c'est un peu, en fait, le cas de force majeure, ou pareil, une personne qui se noie dans Loire, si c'est de la faute de la victime, ben, on ne va pas aller rechercher la responsabilité de Loire. Mmh. Donc, mais il y a quand même tout ça à penser, on ne peut pas l'occulter, parce que les droits à la nature, je l'ai dit, il y a aussi un pendant quand même juridique, et on est obligé de penser aux conséquences, de voir comment on intègre ça dans le cadre juridique français ou européen. Donc on est obligé de se poser ces questions, et donc c'est le but de ce think tank, de réfléchir à tout ça collectivement et de mélanger les approches. Je l'ai dit, il y en a qui estiment que les droits de la nature, il faut reconnaître une personnalité juridique, d'autres qui proposent une autre voie en disant juste des droits mais pas de personnalité juridique. Et donc c'est ça aussi qui fait la richesse du think tank, c'est de mélanger toutes ces approches et de réfléchir collectivement.
Comme on le disait tout à l'heure au sujet d'une lutte, voilà, il faut faire feu de tout bois et faire avec toutes celles et ceux qui sont là.
Bah ça, c'est notamment vrai pour multiplier l'outillage juridique, donc mobiliser à la fois tous les outils du droit de l'environnement qui existent, mais pas que. Aller aussi avec les droits de la nature pour avoir un moyen supplémentaire de défendre la nature en justice. Maintenant, il faut être conscient que si le droit n'est pas appliqué, que ce soit le droit de l'environnement, les droits humains, les droits de la nature, ben on n'ira pas loin. Et ça, c'est un peu les limites du droit. Même en Équateur, en Colombie, là où les droits de la nature ont été reconnus, ils ne sont pas toujours appliqués. Mmh. Est-ce à dire pour autant que les droits de la nature ne servent à rien ? Non, je crois pas. Sinon, on dirait la même chose du droit de l'environnement. Ben, il n'est pas appliqué, donc il sert à rien. Non. Il faut de tout, faire feu de tout bois, comme tu dis. Mmh.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de cet échange avec l'avocate Marine Izquierdo qu'on remercie. Pour approfondir, allez explorer le site très fourni de Notre Affaire à tous. Il y a aussi un site dédié au Parlement de Loire. Et à voir également le site de l'expédition Bateau Labo qu'on remercie aussi pour avoir permis cette émission que vous pouvez télécharger via Podimix et lavoixoff.com. On se retrouve très bientôt sur votre radio toujours libre, préférée, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut !
Oui, force est de constater, mon cher Alec, que nos chers compatriotes sont consternés par tant de controverses et de contradictions conçues comme autant de coups contractés par la Constitution contre leur consentement et leur concertation.
Elle est pas mal, celle-là. Ouais, force est de le constater, mesdames, messieurs. En tout cas, après cette belle phrase, moi j'aimerais vous dire bon courage, hein. Gardez la courge, gardez la courgette, gardez le concombre. Chers congénères et chers confrères, on se dit à bientôt.
La papa, convoqué à Copenhague pour couper court au séon. Un cortège de comptables, on voit en hélico et de colloques en conférence. Voilà, un vieux coq coiffé comme une offense. Voilà, chanter comme un con comme Corico.